Panorama Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Le monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du lundi 3 juillet 2023. Bonjour à toutes et à tous en direct de Washington. Idrissa Seloudia, tout d'abord les titres. Au Mali, remaniement partiel du gouvernement au lendemain de l'annonce du retrait de la mission de l'ONU dans le pays. Au Sénégal, le président Macky Sall promet d'annoncer ce lundi s'il sera candidat à la présidentielle de 2024. Les émeutes en France, l'attaque visant un maire de la banlieue parisienne suscite l'indignation. 4 Palestiniens tués à Jenin, en Cisjordanie, dans une opération israélienne. Ici aux États-Unis, 2 morts et des dizaines de blessés après des tirs lors d'une fête à Baltimore, dans le Maryland. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. Au Mali, une semaine après le résultat favorable d'un référendum au projet de nouvelle constitution, les militaires au pouvoir ont procédé samedi à un remaniement partiel du gouvernement Nathalie Barge.
Les poids lourds du régime qui occupent les postes stratégiques tels que le ministère de la Défense, des Affaires étrangères ou de la Justice sont reconduits à leur poste. Mais le gouvernement est fortement remanié avec 16 nominations. Un représentant de la coordination des mouvements de la Zawad, principale alliance d'anciens rebelles du Nord, quitte le gouvernement alors que les tensions sont vives entre les deux parties. La médecin-colonel Assa Badialo-Touré, jusque-là conseillère spéciale du président de la transition Assimi Goïta, est nommée au ministère de la Santé et du Développement social. Les Maliens ont approuvé avec 97% des voix le projet de nouvelle constitution qui a toutefois été entravé dans plusieurs localités du centre et du nord par la crainte des attaques djihadistes ou des désaccords politiques. Les détracteurs du projet le décrivent comme taillé sur mesure pour un maintien des colonels au pouvoir au-delà de la présidentielle prévue en février 2024, malgré leur engagement initial à céder la place aux civils après les élections. Vendredi, le Conseil de sécurité de l'ONU a mis un terme à la mission de maintien de la paix au Mali. Le 16 juin, le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, avait dénoncé l'échec de la MINUSMA et exigé son retrait sans délai dans un discours devant le Conseil de sécurité.
Au Sénégal, le président Macky Sall a prôné l'unité devant ses supporters et dit qu'il annoncera ce lundi, lors d'un discours à la Nation, s'il sera candidat pour un troisième mandat à la présidentielle de février 2024. Le président Sall s'est exprimé samedi à Dakar lors de la remise d'une pétition d'élus locaux en faveur de sa candidature, Yacouba Ouédraogo.
Devant 400 maires engagés à le soutenir, Macky Sall a déclaré que l'unité ne permettrait à aucune force politique de faire face à Beno Bok Yakar, la coalition présidentielle. Il a exhorté ses partisans à placer l'intérêt général au-dessus de toute autre considération, affirmant que son choix serait libre et souverain. M. Sall a fait valoir que seuls des facteurs politiques et non constitutionnels l'empêcheraient de se présenter. Mettant en avant son bilan, le président a déclaré que son combat est de poursuivre la politique économique au bénéfice des populations et a souligné que la feuille de route pour faire du Sénégal un pays émergent en 2035 est déjà balisée. Élu en 2012 et réélu en 2019, Macky Sall a fait réviser la constitution en 2016. Elle stipule que nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs, mais ses partisans qui le présentent comme leur candidat en 2024 arguent que les compteurs ont été remis à zéro. La condamnation de l'opposant Ousmane Sonko dans une affaire de mœurs a engendré début juin de graves troubles qui ont fait 16 morts selon les autorités, 24 selon Amnesty International et 30 selon l'opposition.
En prévision du discours du président Sall, l'opposant Ousmane Sonko a appelé dimanche soir les Sénégalais à sortir massivement les prochains jours. Nous devons sortir pour affronter le régime de Macky Sall et dire que ce ne sera pas à lui de choisir les candidats qui devront s'affronter pour la prochaine élection présidentielle, a déclaré M. Sonko au cours d'une intervention sur les réseaux sociaux. Il n'a cessé de crier au complot du pouvoir pour l'écarter de l'élection présidentielle de février 2024, ce que le pouvoir réfute.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En France, la violente attaque à la voiture Bélier contre le domicile du maire d'une localité de banlieue parisienne a provoqué une indignation unanime dans le pays où un retour au calme s'est esquissé dans la soirée de dimanche après 5 nuits d'émeutes consécutives à la mort d'un adolescent de 17 ans tué par un policier. John Lyndon fait le point.
Le choc causé par l'agression visant le maire en question avait fait passer au second plan la décrue des violences déjà constatées dans la nuit des samedis à dimanche dans de nombreuses villes. Après ces faits, dans un contexte de recrudescence et des attaques visant les élus, la population est invitée à se rassembler ce lundi à midi devant toutes les mairies de France. Le président français Emmanuel Macron doit recevoir les présidents des deux assemblées également lundi, puis les maires de plus de 220 communes ciblées par les violences ce mardi. Il a aussi demandé à sa première ministre de rencontrer les présidents des groupes parlementaires lundi. M. Macron souhaite en outre débuter un travail minutieux et de plus long terme pour comprendre en profondeur les raisons qui ont conduit à ces événements selon l'Élysée. En 5 nuits d'émeutes jusqu'à dimanche matin, le ministère de l'Intérieur a comptabilisé quelques 5000 véhicules incendiés, près de 1000 bâtiments brûlés ou dégradés, 250 attaques de commissariat ou de gendarmerie, plus de 700 membres des forces de l'ordre blessés. Dimanche, la grand-mère de l'adolescent tué mardi dernier à Nanterre a lancé un appel au calme en assurant avoir confiance en la justice. Pour la troisième nuit consécutive, un dispositif massif a été maintenu en France avec 45 000 gendarmes et policiers mobilisés.
Ajoutons, John, que selon le ministère de l'Intérieur, un pompier de 24 ans est décédé près de Paris en luttant contre des incendies de véhicules. Nouvelle fusillade ici aux États-Unis, 2 personnes au moins ont été tuées et 28 autres blessées dans la nuit de samedi à dimanche à Baltimore dans le Maryland. Lionel Gahima.
La police a indiqué avoir reçu plusieurs appels peu après minuit dimanche signalant qu'on tirait sur des gens dans le quartier de Brooklyn à Baltimore. En arrivant sur place, les policiers ont trouvé de nombreuses personnes atteintes par balles, a précisé le chef de la police, Rich Worley, lors d'une conférence de presse. Une jeune femme et un jeune homme ont été tués, 9 personnes grièvement blessées ont été transportées vers les hôpitaux les plus proches. 3 blessés sont dans un état critique. Lors d'une conférence de presse, le maire de la ville, Brandon Scott, a déclaré que cette énième tuerie de masse met à nouveau en évidence les conséquences et la nécessité de lutter contre la prolifération des armes à feu illégales dans nos rues et la possibilité pour ceux qui ne devraient pas en avoir de réussir à s'en procurer. Comptant plus d'armes à feu que d'habitants, les États-Unis ont le taux le plus élevé de morts par arme à feu que des pays développés. Selon l'association Gun Violence Archive, 20 200 personnes ont été tuées par balle en 2022 et 24 000 personnes se sont suicidées avec une arme à feu. La fusillade de Baltimore est la 337e tuerie de masse depuis le début de l'année.
L'armée israélienne a annoncé dans la nuit de dimanche à lundi frapper des cibles dans la ville et région de Jenin, en Cisjordanie occupée, dans le cadre d'une vaste opération antiterroriste toujours en cours et qui a tué 4 Palestiniens et fait 27 blessés, dont 7 grièvement, selon le ministère palestinien de la Santé. Le mouvement palestinien du djihad islamique a déclaré dans un communiqué que toutes les options sont sur la table pour frapper l'ennemi, c'est-à-dire Israël, en réponse à ce qu'il a appelé son agression à Jenin. Les troupes ukrainiennes résistent à un assaut lancé par l'armée russe sur des lignes de front de l'Est à de l'Est ukrainien et font face à des difficultés dans le nord-est du pays, mais elles effectuent en revanche des progrès près de la ville ravagée de Bakhmout et dans le sud du pays, a déclaré dimanche le gouvernement de Kiev. La Minute Écho. Jacques Aristide.
Le gouvernement éthiopien vient de relancer le processus d'attribution d'une deuxième licence privée de télécommunications, un marché dominé par l'opérateur public Ethio Telecom, sur lequel est entré depuis peu le Kenyan Safaricom. Pays à l'économie encore largement étatisée, l'Éthiopie avait mis fin au monopole d'Ethio Telecom en accordant en 2021 un permis de téléphonie mobile à Safaricom. Mais la deuxième licence proposée à un opérateur privé n'avait pas été attribuée, l'offre du Sud-Africain MTN ayant été jugée trop basse. Le secteur éthiopien des télécoms connaît de nombreux développements positifs depuis le début du processus de libéralisation, dont un solide cadre légal et réglementaire et un cadre légal de fourniture des services financiers mobiles, indique l'Agence éthiopienne des communications dans un communiqué publié vendredi dernier en lançant un appel à qualification pour la nouvelle licence nationale multiservice et en invitant les opérateurs de classe mondiale à se faire connaître. La Chine et la Russie vont investir 1,4 milliard de dollars pour ouvrir deux mines de lithium en Bolivie qui disposent de grandes quantités de ce métal nécessaire aux batteries de voitures électriques. L'entreprise chinoise Asetic Guan et la russe Uranium One Group, deux groupes à forte participation d'État, vont s'allier à la compagnie publique Yacimientos de Litio Bolivianos pour construire deux usines de production de carbonate de lithium, selon Luis Arce, le chef de l'État bolivien.
Merci Jacques. À présent, les sports avec Élisée Oumpatine. Élisée, bonjour.
Oui, bonjour Idrissa et bonjour à tous.
Fin des Jeux africains de plage en Tunisie. Le Maroc détrône le Sénégal en beach soccer.
Oui, les Lions de l'Atlas de Sable ont remporté la deuxième édition de cette compétition en battant leur homologue sénégalais tenant du titre au tir au but 4-3-2-2 après le temps réglementaire. Une grosse performance réalisée devant un Sénégal invaincu sur le continent depuis 2001. Un exploit que salue Ngala Sylla, sélectionneur du Maroc, qui a été ancien joueur puis entraîneur du Sénégal.
Le Sénégal, c'est une équipe qui n'a pas l'habitude d'encaisser. C'était la meilleure défense du tournoi et la meilleure attaque. Il fallait le marquer très tôt et le faire douter. Et c'était ça l'objectif. Et après, voilà, il fallait qu'ils fassent beaucoup d'efforts pour en revenir. Ils l'ont fait. Ils ont même après remonté à 3-2. Et après, voilà, il fallait chercher le but. Et le but de KO, on l'a même raté sur les dernières 12 minutes. Et après, aller en prolongation, on l'a raté encore. Et après, voilà, tir au but, il fallait être prêt mentalement. Et je pense qu'ils ont pris une bonne leçon de cette défaite pour leur permettre de grandir dans les autres séances.
Ngala Sylla, sélectionneur du Maroc au micro d'Amedine Sy. A noter qu'en beach hand, la Tunisie signe le doublé homme et dame. En basket, 3x3 chez les hommes. Le pays hôte, la Tunisie, prend l'ordre devant le Mali, qui prend sa revanche au niveau des dames. Et puis, en badminton, l'Afrique du Sud rafle tout en triple. Et c'est le Nigeria qui remporte l'or en double miss après avoir battu le Bénin en finale.
Le Ghana aussi s'est illustré, mais en athlétisme.
Oui, et c'est grâce à Adissou Girima Tola qui remporte les 10 km hommes. Et chez les femmes, l'or est allé à la Djiboutienne Samia Hassan Nour. Le Wushu était également sur les plages d'Amamet et le Sénégalais Alassane Ba, sauf l'or dans la catégorie standard des moins de 70 kg. L'argent pour sa compatriote Marietou Diallo, battue en finale par la Tunisienne Eya Drifi dans les moins de 60 kg. Au tableau des médailles, l'Algérie vient en tête avec 34 dont 15 en or, suivi de la Tunisie qui a remporté 13 médailles d'or, 12 en argent et 11 en bronze. Le Maroc complète le podium avec un total de 22 médailles.
Football à présent, le premier tour de la CAN des moins de 23 ans a pris fin. Place aux demi-finales.
Tout à fait. Et on y retrouvera le tenant du titre, l'Égypte, première du groupe B après son succès 2-0 face au Gabon. En demi, les Pharaons Espoirs joueront la Guinée qui a fini deuxième du groupe A. La seconde demi opposera le Mali, vainqueur 1-0 du Niger au pays hôte le Maroc, qui a fait le plein dans le groupe A, 3 victoires en 3 matchs. Rendez-vous donc demain mardi pour ces affiches qui vont livrer les deux premiers qualifiés pour les Jeux Olympiques de Paris en 2024.
Merci Élisée.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sédoulia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Mali, le Conseil de sécurité des Nations Unies a voté à l'unanimité la fin du mandat de la MINUSMA, comme demandé par les autorités de la transition malienne le 15 juin dernier. Enjeux et conséquences d'une telle décision dans ce reportage de notre correspondant à Bamako, Mohamed Danioko.
Après 10 ans de présence au Mali, la MINUSMA fait ses valises. Elle part alors que la situation sécuritaire est incertaine malgré les nombreuses acquisitions d'équipements par les forces armées maliennes. Malgré la perte de plus de 174 casques bleus, cette mission laisse un goût d'inachevé. Paul Oula, analyste des questions sécuritaires.
Le premier enjeu est que l'opportunité est désormais offerte au Conseil de sécurité de repenser, d'opiner sur les mécanismes opérationnels de forces onusiennes de maintien de paix dans les pays conflictogènes.
L'analyste Paul Oula estime aussi qu'il n'y aura pas de vide sécuritaire car les casques bleus n'avaient pas pour mission de combattre. Il est d'avis que les conséquences pourraient être sociales si les autorités n'ont pas préparé l'après-MINUSMA.
Près de 800 Maliens qui travaillent à la MINUSMA en tant que fonctionnaires et près de 6000 qui travaillent temporairement. À cela, il faudra ajouter des prestataires de services, des commerçants, ainsi de suite. Ce qui nous conduit à dire qu'il y a une myriade de personnes qui travaillent directement ou indirectement à la MINUSMA. Alors, il faudra que l'État parvienne à combler vite ce déficit.
Contribuant à la stabilisation du Mali et la mise en œuvre de l'accord de paix conformément à son dernier mandat, la MINUSMA s'est beaucoup investie dans l'humanitaire et le financement de projets à caractère social. Ce vide que laissera son départ fait déjà peur à certains Maliens. Malik Alidou est un jeune de Gao, la grande ville du nord du Mali.
En tout cas, nous, ici, dans les régions du Nord, nous disons que nous sommes très préoccupés par ces retraits précipités, parce que ce qu'il faut savoir, la MINUSMA, quand même, c'est une grosse machine et qui est installée un peu partout dans les grandes villes du Nord. Donc, aujourd'hui, demander à ceux que cette mission parte aussi précipitamment, je pense que ça va avoir des couacs, puisque le temps que l'État puisse effectivement reprendre ces zones-là et pouvoir réinsérer encore ces travailleurs-là, je pense que ça va encore contribuer à l'aggravation de la situation sécuritaire.
24 heures après le vote de la fin du mandat de la mission onusienne, les autorités ont procédé à un réaménagement ministériel. Il y a quelques 12 sortants, mais les postes clés de la défense, de la sécurité, de la justice et des finances n'ont pas connu de changement, en plus du Premier ministre qui reste en poste. Mohamed Danioko pour VOA Afrique, Bamako.
Après 10 ans de présence et un effectif de quelques 15 000 hommes, la mission des Nations Unies a donc 6 mois pour quitter le Mali. Dans la région de Gao, où la MINUSMA est présente, les avis restent toujours partagés sur ce retrait, nous dit notre correspondant sur place, Boubacar Touré.
Dans la région de Gao, les avis restent toujours partagés sur le retrait de l'administration au Mali. D'aucuns se réjouissent car, selon eux, ce retrait permettra aux FAMA d'accomplir honorablement leur mission régalienne de défense des personnes et de leurs biens.
10 ans, concrètement, nous n'avons rien vu. Tout ça, la montre en réalité que l'administration n'a plus sa place ici au Mali.
Sur le plan sécuritaire, vraiment, ça n'a, les attentes des marins n'ont pas été atteintes. Avec ce que nous avons vu, l'acquisition de tout ce matériel et le recrutement massif, nous pensons que sur le plan sécuritaire, le Mali peut s'en sortir. Parce qu'on ne peut pas être autonome si on a un territoire occupé par des étrangers. Donc ça réduit notre mobilité, ça réduit notre décision.
Les gens qui travaillent à l'administration auraient dû prendre des dispositions de toutes les manières. Je ne vois même pas comment ils peuvent s'interposer entre les gens. Est-ce que les gens sont en conflit? Il n'y a même pas de conflit. Nous avons une lutte contre les terroristes et non contre nos frères d'armes.
Le Mali restera comme avant l'aménagement et nous allons vivre comme avant l'aménagement. Parce que nous étions là sans l'aménagement. L'aménagement ne fait rien en ce qui concerne les terroristes. Il ne soutient pas nos forces armées à lutter contre les terroristes. Donc je trouve que même si les forces onusiennes quittent le Mali, nos forces armées peuvent nous sécuriser.
D'autres par contre s'inquiètent. Ils pensent bien que le retrait de la mission laissera forcément un grand vide au Mali.
Ce qu'on voit, ça sera plus pire que l'impact que le Barkhane a laissé. Au jour d'aujourd'hui, même les gouvernements vont sentir cet impact parce que c'est l'aménagement qui sert comme des moyens de déplacement pour les administrateurs de l'État. C'est l'aménagement qui appuie l'État. C'est l'aménagement qui vient en aide concernant les différentes infrastructures et aussi même les équipements de certaines administrations de l'État.
Si on accuse l'aménagement parce que ceci, parce que cela, moi je pense que c'est un faux débat. C'est un faux débat. Et sur le plan de l'emploi, l'aménagement a créé beaucoup d'emplois. Et aujourd'hui, tous ces pères de famille vont aller au chômage. Et le gouvernement n'a pas une autre alternative pour ces pères de famille.
De mon point de vue, ils ont fait assez de bonnes choses quand même. Parce que aujourd'hui, dès que l'on regarde partout, c'est l'aménagement. On dit qu'il fait partie de quoi? Il travaille à l'aménagement. Il prend les jeunes. Ça aide à diminuer le taux de criminalité des jeunes.
Donc, si tu vois que le Mali a demandé le départ de l'aménagement, donc ils ont pris les dispositions.
Dans une intervention à la télévision nationale le samedi soir, le ministre des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, rassure ses compatriotes en déclarant que cette décision des autorités du pays n'a pas été prise à la hâte. Elle a été nourrie et longuement réfléchie. En tout cas, le divorce est définitivement consommé entre le Mali et la mission des Nations Unies. Les jours et les mois à venir, nous édifierons davantage sur cette décision de retrait de l'aménagement au Mali. Gao, Boubacar Touré, VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Au Gabon, allons à la rencontre de Landry Ngomou, un passionné de l'agriculture qui veut se professionnaliser dans la production de jus de fruits bio. Lauréat des jeunes entrepreneurs gabonais en 2019, Landry a pu créer un verger en plein cœur de la capitale Libreville. Son défi et ses difficultés dans ce reportage de notre correspondant Ismaël Obiangze.
Comme chaque matin, Landry Ngomou récolte les fruits de son travail toujours prêt à la transformation.
Ici, on vous présente le piment de Cayenne séché en poudre. Et ici, on vous présente déjà le piment de Cayenne en frais, écrasé. Donc, vous voyez là, ça c'est mon nouveau projet. Voilà, mon pur jus de fruits de la passion, c'est-à-dire ce que vous voyez là, que vous allez visiter tout à l'heure. Moi-même, je plante ici de manière naturelle et maintenant, c'est la transformation. Voilà, donc vous voyez, c'est pour gagner dans la question normalement de santé. Parce qu'avec ce jus, vous voyez, vous avez au moins plus de 4 à 5 vertus. Parce que le fruit de la passion, c'est la vue, quand il est fait de manière naturelle. Le fruit de la passion, c'est le bien du ventre. Et pour ceux qui comptent comme aujourd'hui à Libreville, la constipation devient un luxe. Donc vous voyez, voici une mesure naturelle qui peut accompagner le bien de votre ventre.
Dans son verger de près de 1000 hectares, il cultive du piment, des fruits de la passion, du crossone, des avocats, des mangues et bien d'autres. Il fait aussi des jus de fruits naturels. Aujourd'hui, le fruiticulteur a rendez-vous avec Quentin Bonjoué, l'un de ses nombreux clients.
Quand il m'a parlé du fruit de la passion, je suis directement venu pour m'en procurer. Parce que je sais ce qu'il fait. Et je sais que ce qu'il fait, c'est pour le bien-être du corps.
Et la culture passion semble garantir à Landry une production à l'abri des produits chimiques.
L'action même de son premier engrais, le voici. La transformation. Hein, parce que par ce feuillage, je peux faire déjà mon propre engrais. Donc, avec déjà le sol qui, au départ, est fertile, je n'ai pas besoin d'ajouter des choses qui vont me nuire demain. Je ne fais seulement que répéter la même science que j'ai trouvé les parents, puisque ça n'a jamais été hypothéqué notre sol.
Dans un pays où le retour à la terre est souvent associé à la pauvreté et l'archaïsme, Landry avoue que son projet bute encore sur l'absence de financement.
Ce que je fais ici, c'est une banque à graines et je veux avoir des terres. J'ai besoin de soutien de manière à avoir le matériel et des terres, parce que quand on a le matériel, on a des terres, un fonds de roulement pour accompagner la technique et puis faire normalement voir un peu le développement de mon équipe, parce que j'ai des gens derrière moi. Mais sauf que le problème, c'est parce qu'ils ne croient pas. Ils se disent que l'agriculture, alors qu'ils ne savent pas que ça ne manque pas.
Les métiers liés à la terre ont un potentiel de création d'emplois, mais au Gabon, c'est rarement en tête des choix chez les jeunes. Libreville, Ismaël Obionze pour VOA Afrique.
Salut à tous, c'est Yakuba Ouedraogo. Vous aimez le sport? Vous voulez comprendre davantage chaque discipline? Vous voulez en discuter? Retrouvez-moi chaque lundi en direct à partir de 19h05 temps universel dans Sporama sur VOA Afrique. Pour participer à l'émission, c'est très simple. Laissez-nous vos commentaires et numéros de téléphone sur notre page Facebook. Nos spécialistes du sport sur le continent sont là pour vous apporter leurs éclairages. À très vite sur le terrain de VOA Afrique.
Protection des espèces rares, le Cameroun envisage de durcir la loi sur le braconnage des pangolins. Cet animal est le plus braconné au monde, selon les experts de la faune. Une campagne de sensibilisation est en cours pour la protection et la préservation du pangolin de Yaoundé, notre correspondant Emmanuel Julta.
Au Cameroun, il y a 3 espèces de pangolins sur les 4 vivants en Afrique. Ce mammifère est sous la menace d'extinction à cause du commerce illégal, d'après l'ONG de défense de l'environnement, Wild Health. Jennifer Biffo, représentante pour l'Afrique francophone de l'ONG Wild Health au Cameroun.
Les écailles de pangolin sont privées par rapport à ces soi-disant vertus médicinales. Et du coup, il y a un commerce qui existe, qui est principalement envoyé donc, en Asie, puisque c'est pour la médecine traditionnelle chinoise, mais qui est aussi utilisé localement, pareil, dans la médecine traditionnelle.
Une étude réalisée l'an dernier auprès de populations urbaines de 5 villes, Douala, Yaoundé, Bertoua, Ibolva et Mbalmayo, révèle une très faible connaissance par les Camerounais de la loi qui interdit la chasse, la mise à mort, la capture, le commerce et la consommation des pangolins.
Je suis Roger Mila et j'ai un message pour vous.
Des vedettes de football comme Roger Mila, l'ancien attaquant des Lions indomptables du Cameroun, sensibilise pour réduire la consommation de viande de pangolins.
Depuis 2017, toutes les espèces de pangolins sont intégralement protégées au Cameroun. La chasse, la capture, la détention de ces animaux sont strictement interdites parce qu'ils se reproduisent lentement et leur rôle dans la nature est essentiel. Alors disons non à la consommation et au commerce des espèces protégées.
Dans les zones rurales comme Monatélé, à 76 km au nord de Yaoundé, l'autorité traditionnelle est aussi mise à contribution. Prosper Mbassi, Bessala, chef traditionnel de Monatélé.
Lors de nos séances de causerie, il reste souvent posé la question de savoir est-ce que vous rencontrez encore autant de pangolins que par le passé? Ils répondent par la négative. Et nous leur disons, vous voyez, vous avez énormément tué. Et si vous continuez à tuer, vous vous plaignez de ce que les termites bouffent les maïs, bouffent les arachides, bouffent le cacao, bouffent ceci, c'est parce que la population de pangolins a diminué. Donc c'est la famine qui s'ensuit.
D'après les experts, il y a un enjeu écologique capital pour la conservation et la protection du pangolin au Cameroun. Jennifer Biffo, représentante pour l'Afrique francophone de l'ONG White Head au Cameroun.
Le pangolin, c'est un animal qui peut manger jusqu'à 70 millions de fourmis et termites par an. Et du coup, avec ça, qui permet d'éviter éviter une invasion, une surpopulation de fourmis et termites, mais également d'aérer les sols. Parce que lorsqu'il se nourrit de fourmis et termites, il va creuser le sol et en faisant cela, il va aérer les sols et permettre au sol d'être beaucoup plus fertile. Donc il a également ce rôle de pesticide naturel.
Le gouvernement a élaboré un nouveau projet de loi sur le braconnage de pangolins avec des sanctions plus lourdes. Les braconniers risquent désormais des peines de prison entre 10 et 20 ans. Yaoundé, Emmanuel Junta, VOA Afrique.
Voilà, c'est tout pour cette édition du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Au micro, Idrissa Sevugna, à la mise en onde de Lionel Ronaniera Gahima, à la console Kelvin Fowler. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.